www.radio-g.fr.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes d'abord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le 101.5 de Radio G. Nous sommes lundi 7 octobre, il est 19h et que vous soyez dans votre salon, dans votre canapé, dans votre douche ou encore à manger ou encore en voiture, ce sera quand même 19h et c'est l'heure de la case de Seb. Comme tous les lundis, par la magie des ondes radiophoniques, on va balancer dans vos têtes les plus belles images que nous avons pu collecter ces derniers jours. Enfin tous non, puisque du coup... Tous mes petits camarades n'ont pas lu, mais je suis quand même avec Tony, Anthony et Teddy pour vous parler du meilleur de la bande dessinée et du 9e art. Et c'est la même chose.
Oui, tout à fait. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
On se fait quelques petites news.
C'est parti.
C'est bien ce que j'ai vu que tu...
Je m'étais mis aux news.
Ouais. Donc j'en ai qu'une, moi, du coup.
Bah balance la tienne en premier, puis on verra les autres. Hein, parce que je suis quasiment assuré qu'on a la même.
Ouais.
Voilà.
La plus triste.
Bah oui, forcément.
Ah, la plus triste, ça reste quand même le décès de Philippe Thom,
ouais.
Grand scénariste s'il en est un, à qui on devait de nombreux albums de Spirou, la création du petit Spirou, et alors moi ce qui m'a touché le plus, c'est que c'est celui qui avait créé Soda, une BD qui m'a énormément marqué. Ciao l'artiste, hein, je sais pas quoi dire de plus.
Bah qu'il est parti trop tôt parce que du coup il était quand même encore relativement jeune.
62 ans.
Ouais, et ils n'ont pas spécialement communiqué sur le décès à proprement parler, mais bon voilà, c'est quand même quelque chose d'assez brutal apparemment. Et puis du coup il y a tous les hommages qui sont en train de se multiplier sur la toile un peu partout. Moi j'ai vu passer celui de Zep cet après-midi, qui est, yes. très attendrissant, enfin qui est plein de talent, mais aussi plein d'humilité, donc ouais, non c'est... bon voilà. À un moment donné, ça arrive immanquablement. De toute façon, on est tous prévenus au départ que ça doit se passer comme ça, mais bon.
C'est ça, c'est vrai. Bref.
On en met des autres plus joyeuses.
Ouais, je t'écoute.
Alors, j'en ai sélectionné. Alors, sur Actua BD, hein, qui est notre partenaire forcé, parce qu'ils sont pas au courant spécialement, mais du coup, je vais chercher ça sur leur site, parce que c'est quand même très très bien foutu. Merci pour ça, messieurs, dames. Je vais parler des éditions Kenes, parce qu'en plus, je suis directement impacté par cette news. Qui commence à se positionner en Flandre et en Hollande. Alors, bon, voilà, je le lis, hein, tout simplement. Cette rentrée, les éditions Kenes annoncent pas moins de 70 nouveautés. Donc, c'est quand même énorme pour une rentrée littéraire. Rassurez-vous, pas toutes en BD. Hein, effectivement, ils cumulent la croissance interne et externe en rachant d'autres labels d'édition. Appuyés sur deux pays francophones périphériques au marché français, le Canada et la Belgique, le label belge publie désormais lui-même son catalogue conjointement en néerlandais. Rien que ça.
Ah oui, quand même.
Dans la BD, la croissance est externe par le rachat des éditions Joker. Ils rachètent également les éditions Joker, les Foot Furieux Kids, Napoléon et Olivier Rameau, qui est un peu plus connu par le grand public, qui va prendre prochainement une tournure sexy sous la houlette de la très sympathique Katia Even, un gage de qualité. Katia Even, qui fait essentiellement des bandes dessinées érotiques.
Ouais. C'est elle qui avait fait le Plastic Fantastique.
Ouais, il me semble bien, ouais. Ouais, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble bien. Et à cela s'ajoute l'acquisition du label français Monsieur Popcorn, putain de chat de la puce. Alors, c'est le seul qui est cité, mais il y a quand même d'autres titres dans le catalogue, obligatoirement.
Ouais,
qui
d'auteur inconnu.
Oui, oui, oui. Bah, c'est pas forcément ça qui me motive, c'est surtout la survie des livres. Qu'il a sous la direction de Lionel Bonal, alias Tartuffe, qui est coloriste de bande dessinée également, et d'Aurélien Bouis, qui vient d'être papa, je l'embrasse à l'occasion. Imprimeront une inflexion plus alternative, avec tous les guillemets que ça implique, au catalogue. Voilà. Donc, le groupe Kenes grandit.
Eh ben...
Et nous en faisons partie à partir depuis le 27 septembre, en fait. On revient sur la petite polémique qu'il y avait eu sur BD 2020, l'année de la bande dessinée.
Attends, je te coupe quand même sur le rachat par Kenes. Du coup, il y a Julio Biscotto tome 3 qui est sorti il y a peu de temps, sur lequel tu...
On est toujours sous le label Monsieur Popcorn pour l'instant.
Toujours Monsieur Popcorn.
Ouais, tout à fait. Okay. Mais du coup, voilà, Kenes est aux commandes. Et puis après, à un moment donné, je pense que dans le temps, ça va se diluer. Je sais pas comment ça va se passer. Peut-être qu'il y aurait des réimpressions avec le logo Kenes. On n'est pas encore au courant et on attend que Dimitri nous contacte. Donc je reviens sur BD 2020, le concours. Alors BD 2020, on sait tous maintenant que la DRAC a décidé que ce serait, le ministère a décidé que ce serait l'année de la bande dessinée, 2020, l'année de la BD, et qu'ils avaient fait une petite bourde, une petite merdouille en fait de communication avec un concours. Hein. Un concours, voilà, on demande à des gens dont c'est le métier de faire un concours pour éventuellement avoir de l'argent pour un dessin. Un petit problème de logique et de respect de la personne, à mon sens. Et du coup, voilà, il rétropédale et ça devient un appel à candidature pour l'occasion. Après le lancement un peu précipité de son concours d'affiches pour lancer l'année nationale de la bande dessinée, les organisateurs ont revu leur copie. Ils reviennent aujourd'hui avec non pas un concours d'affiches, mais un appel à candidature. C'est moins déguisé, c'est la même chose, hein, mais du coup, c'est vraiment ce que c'est pour le coup. C'est un appel à candidature de nouveaux talents, choisis sur la base d'un dossier pour illustrer l'affiche de l'année de la bande dessinée de BD 2020. Alors, des voix n'avaient pas manqué pour pointer du doigt un concours qui envisageait de faire travailler gratuitement des artistes déjà dans une situation précaire. Ce n'était pas le premier ni le dernier concours à fonctionner de cette manière, mais pour inaugurer une année où les auteurs s'annonçaient au centre du processus, ce n'était pas très adroit. Effectivement, on peut en convenir. En première critique, la réaction a été prompte. Vincent Monadet, président du CNL, Centre National du Livre, annonçait que sur la demande du ministre de la Culture, Franck Riester, le règlement du concours serait modifié. Ainsi, les participants ne doivent désormais plus réaliser d'affiches. Mais ils ont du 23 septembre au 7 octobre 2019, donc c'est quand même un laps de temps qui est assez
jusqu'à
court,
ce soir, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça.
Si vous n'avez pas déposé votre candidature,
c'est
dépêchez-vous.
Maintenant, les gars, jusqu'à minuit. Pour déposer leur portfolio sur le site officiel de l'événement www.bd2020.culture.gouv.fr, 10 candidats seront ensuite sélectionnés par un jury d'experts et de professionnels pour réaliser une affiche de BD 2020. Ils auront du 24 octobre au 15 novembre 2019 pour déposer leurs propositions sur le site de BD 2020. Donc ils seront choisis en fonction de leur portfolio en fait. Voilà, c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est pas des propositions, c'est les portfolios. Et une fois qu'ils seront choisis, ils feront.
Il y aura une création, une commande
un peu plus,
pour de bon en fait.
Voilà, exactement. Ce qui est quand même un peu plus honnête et, vis-à-vis des auteurs. Le même jury se réunira alors pour décider du lauréat dont l'affiche deviendra le visuel officiel de l'année nationale de bande dessinée. Les 9 candidats non retenus recevront alors 1000 euros chacun pour leur production et le candidat se verra remettre une généreuse dotation de 10 000 euros l'affiche, ce qui est quand même pas dégueulasse là pour le coup. Pour le reste, les modalités de participation restent similaires. Cet appel à candidature concernant les artistes de bande dessinée ayant publié entre 1 et 5 ouvrages, dessins, collages, encres, peintures, illustrations traditionnelles ou infographiques, tous les types de créations sont sollicités. Espérons qu'après ce premier couac, la partition de BD 2020 sera plus harmonieuse. J'aime bien la personne qui a écrit l'article, je la connais pas mais j'aime bien. La proclamation du vainqueur sera l'occasion de l'annonce par le ministre des premières festivités, qu'on ne connaît pas encore. En fait, pour l'instant, on ne sait pas du tout quel sera le programme de cette année 2020.
Alors je me permets juste de taquiner un petit peu,
bien sûr.
C'est une news qu'on a faite la semaine dernière,
oui.
Mais tu ne nous as pas écouté.
Non, bah non.
Eh ben non, mais
bah non, bah si je viens pas, c'est que je peux pas venir et que du coup je peux pas forcément vous écouter. Vous en avez parlé ça de cette news-là ?
Oui, ça on en a parlé la semaine dernière. Alors, ne faites pas comme notre ami.
Aussi et aussi bien ?
Non,
non c'est non. Ça.
Mais ne faites pas comme notre ami Tony. Si vous n'avez pas le temps d'écouter l'émission sur le soir même, n'hésitez pas à vous jeter sur les podcasts.
Ah, mais même toute la semaine, j'ai même pas eu le temps. Une news que vous n'avez pas pu faire parce que ça s'est terminé hier. Et hier, du 4 au 6 octobre, en fait, se tenait le 43e festival de la BD de Chambéry, qui est un énorme festival en Savoie au pied des montagnes. C'est assez magnifique déjà au niveau du paysage. Et en plus, c'est un gros festival qui est quand même pas mal trusté par Glénat en l'occurrence, parce que Glénat se trouve à Grenoble. Comment ?
Ça aide quand même, oui, forcément d'être à côté.
Un événement qui mettait cette année l'autrice Aurélie Néret à l'honneur, que l'on connaît notamment pour avoir dessiné les carnets de cerises avec le scénariste Joris Chamblin. Rien que
coucou.
Ça. Voilà, exactement. Comme chaque année, le festival est aussi l'occasion de remettre les éléphants d'or. Voici sans plus attendre la liste des lauréats. Alors, l'éléphant d'or du dessin a été décerné à Max Cabane pour Nada aux éditions Dupuis. L'éléphant d'or du scénario à Jim pour Detox aux éditions Bambou. L'éléphant d'or du jeune public à Frédéric Charve, Sobral, Lifung et Ogaki pour les Mythics aux éditions Delcourt qu'on avait chroniqué dans cette émission.
Yes.
L'éléphant d'or prix du public France 3, Nicolas Petrimo pour Il faut flinguer Ramirez aux éditions Glénat qu'on avait également chroniqué dans cette émission. et défendeur du prix Ensemble de l'œuvre à Pierre Tranchant, décerné à Pierre Tranchant, qui est quand même un vieux briscard et qui effectivement mérite. Alors Pierre Tranchant, il y en a énormément, c'est en l'occurrence Bastos et Zakouski. Pierre Tranchant, il me semble aussi que c'est l'école, une école de magiciens qu'il y avait, je sais plus.
Il y a un truc, il faudrait que je te redise, je cherchais ça.
Volontiers. J'ai et l'éléphant d'or, prix espoir, est décerné, eh ben écoutez, à Nicolas Petrimaud pour Il faut flinguer Ramirez, il en cumule deux. Éléphant d'or du prix de l'année est décerné à Didier Cassegrain pour Nymphéa Noire. Je ne sais plus si on l'avait chroniqué dans cette émission, mais moi je l'avais
si,
lu.
C'est ça l'adaptation d'un roman de... J'ai plus son nom.
Je sais pas. Et c'était un polar qui était
plutôt bien
fort
réussi.
Ouais, très très bien.
Avec une petite astuce scénaristique qui est...
Casse-bonbon,
enfin casse-goule pour ne pas dire de gros mots, à adapter en BD et dont ils se sont plutôt bien sortis.
Ah, ils s'en sont très très bien sortis, ouais.
L'école à Bracadabra,
oui, voilà, c'est ça.
Pierre Tranchant, effectivement.
Je voulais pas dire de bêtises.
C'est trop bon, ça.
Ben oui, dans Pif Gadget à l'époque, moi j'avais découvert ça très
profs,
jeune.
Aussi.
Les profs également, oui, bien sûr. Ouais. Donc voilà, c'est quand même un monsieur qui a marqué de son empreinte le monde de la bande dessinée française.
Il faudra quand même qu'on dise aux gens du Festival Chambéry d'arrêter de nous pomper nos chroniques pour décerner leur prix.
Ah, on peut voir ça différemment. On peut dire aussi, à un moment donné, on se gourre pas en chroniquant
non.
des bouquins.
C'est clair. Après, il faut sauver Ramirez. Je pense que tout le monde a été unanime.
Oui, voilà. Ouais.
Et là, on pouvait pas se tromper.
Eh ben écoute, c'est tout pour les news pour ce soir.
Eh ben c'est plutôt pas mal déjà.
Bah oui.
C'était tout. Tel bah, le chien, c'est une BD aussi.
Oui, Touffu le chien, ouais, également.
Voilà, c'était dans J'aime lire.
C'est toujours dans J'aime lire, il me semble.
C'est toujours dans J'aime lire.
Ouais, je crois bien. On est sur un personnage incroyable.
Mais comme Tom et Nana. Hein.
Exactement.
Comme J'aime lire, quoi.
Comme J'aime lire.
Dans l'auteur, il y avait une exposition sur l'auteur de Tom et Nana.
Au dernier festival d'Angoulême, il me semble, ouais.
Un truc de dingo. Alors, moi, j'ai plein de petits trucs. Teddy, t'avais des news en direct from the movies ?
Trois news.
Mais en parlant dans ton micro, on t'entendra bien.
Trois news, dont deux pour des films et une pour comics pur.
Ok. Eh ben, on t'écoute, on reste dans les news.
Allez, bah c'est parti.
Veux que je te remette un petit coup de générique ?
Ouais,
bah c'est parti. Allez, on est parti. C'est trop bien. Hop. Attends. Toc. Non, peut-être c'est pas ça.
T'arrives pas à le faire,
on va
le faire
avec les aléas du direct.
Mais Jean-Pierre Pernaut, il a eu des problèmes aussi au début.
Non, il a d'autres problèmes.
Au début.
Et après, il a les mêmes problèmes de cheveux.
C'est ça.
Bizarre.
Et de prostate. Oh là là.
Vas-y, enchaîne, Teddy.
Donc, Marvel Studios fait des folies en cette fin d'année. Si vous rêvez de faire un cadeau qui vous ruinerait, eh bien, l'énorme coffret collector de l'Infinity Saga est fait pour ça. Il comportera donc les 23 films du MCU, plus une lithographie de Matt Ferguson, un DVD du Making of et une petite lettre de votre meilleur ami Kevin Feige, donc le producteur du MCU. Tout ça pour la maudite somme de $550 US. Donc 500 euros quoi.
Tu le redis ?
De quoi ?
Le tarif pour que les gens s'étranglent.
$550 US.
Moi j'ai entendu maudite somme en fait.
Ouais, maudite somme.
Maudite.
Si tu veux te ruiner,
mais non, mais en même temps c'est maudite effectivement.
Mais c'est surtout en plus qu'ils l'ont annoncé comme ça en fait à la Comic-Con de San Diego. Ils ont dit qu'il y aura une grosse surprise qui arrivera. Un gros coffret pour ceux qui ont adoré les films du MCU, vu que maintenant on est passé en phase 4. Et Kevin Feige a bien dit que ce serait des petits prix.
mais.
Alors.
Pour les fans inconditionnels, je pense que ça représente effectivement un petit.
Après, je comprends que la lettre de Kevin Feige dédicacée, ça fasse un petit.
Après, tu rapportes ça au tarif par film, c'est pas aussi énorme que ça.
C'est ça,
c'est
ce que j'allais dire, hein, 23
t'as
films.
Même, t'as quand même 100 à 200 euros de dollars en plus, juste pour la lettre.
Ah, bah oui, mais là.
Oui, mais attends. Tu t'es déjà posé la question d'un Julio Biscotto dédicacé, hein?
Non, ça monte pas aussi haut. Mais non, mais là on est sur un objet de enfin, il y a que les collectionneurs qui
vont coller. Surtout que vouloir mettre 500 boules dans un coffret alors que t'as déjà amassé depuis 2008 les DVD pour les avoir.
Ça n'arrête nullement un collectionneur, mon ami.
Ce que je trouve assez drôle, c'est que du coup, il disait que ça allait être une surprise. Or, je vois pas du tout en fait en quoi ça pourrait être une surprise. C'était parce qu'il y a aucun coffret qui est encore sorti sur les films du MCU. Non, mais c'était prévisible. Bien sûr qu'il y aurait eu un coffret collector avec tous les DVD ou tous les Blu-ray. Enfin, je veux dire, ça va être dans la Fnac, hein.
C'est Kevin Feige, hein. Tu sais, on peut pas le comprendre, ce mec. Bon, par contre, rassure-moi, le coffret, il sera forcément en forme de gantelet de l'infini.
Non.
Non, même pas.
Non, c'est juste un pauvre coffret en cartonné avec les DVD rangés. Il n'y a même pas de couverture jolie si tu les assembles.
Là, je suis déçu quand même un petit peu.
Rien.
Je crois que même La Petite Maison à la Prairie avait fait l'effort de la couverture assemblée. Ouais.
Mais le pire, c'est que dans la communication, ils avaient mis, tu sais, la statuette avec le gantelet de l'infini et tout, mais zéro dans le coffret.
Walou. Non, il suffit peut-être de penser que le coffret représente le gantelet et que. Bah...
Bah, le gantelet, il est quelque part une fois que t'as payé les 500 boules.
Bref.
Donc, dans le même univers, Sony et Disney seraient enfin tombés d'accord pour un troisième Spider-Man interprété par Tom Holland. John Watts, serait donc dans le phare de Marvel Studios pour le réaliser. Donc, encore lui. Donc, il aurait fait les trois Spider-Man de chez Disney.
C'est cool.
Ouais, mais apparemment, Sony donc, voudrait que ce soit le dernier, par contre. Marvel essaye toujours de tirer un peu la corde, mais Sony veut quand même le garder pour lui, quoi.
Alors j'ai vu placer plein de petits articles qui disent qu'apparemment il faudrait remercier Tom Holland parce que c'est lui qui est un petit peu à l'instigation de ce dernier accord, mais du coup j'ai pas le...
Ce qui s'était passé il y a 2-3 semaines, c'est que Sony avait définitivement dit non à Marvel et Disney parce qu'ils voulaient le garder, parce qu'ils sont en train de faire la franchise Venom, Carnage qui va arriver, et ils voulaient intégrer Spider-Man dans le Melting Pot. Et bah, Tom Holland... on va dire forcer un peu le truc sur Twitter en mode oui mais moi je veux encore faire des films avec le MCU, avec Disney et tout, et donc du coup Sony a réouvert on va dire les négociations, ils ont réussi à en avoir un troisième, est-ce qu'ils en auront un quatrième pour poursuivre logiquement ce qu'ils voulaient faire en phase 4 mais le MCU on sait pas, en tout cas il y en a un troisième sûr et certain.
Ok.
Donc c'est pas mal.
Moi je suis partisan de la collaboration globale pour avoir le meilleur des deux. Hein.
En vrai je suis pas fan de Tom Holland, mais le travail qui sont faits dans les Spider-Man sont bons. Et Disney apporte un petit plus qu'il n'y avait pas justement dans les anciens Spider-Man. Donc j'aime bien cette version. Donc ça me va.
Moi tant que les personnages de Marvel ne se mettent pas à chanter, ça me va, il n'y a pas de problème.
Non, je pense que ça arrivera jamais, et heureusement d'ailleurs.
Ne dis pas ça toi. Allez, la suite.
Et donc pour conclure, nous avons trouvé la... pire, peut-être pour certains, fin de série de comics de tous les temps. Et oui, The Walking Dead se conclut enfin en 33 tomes. Donc un de plus pour la version française. Il n'y en avait que 32 pour la version US, donc on en a un de plus pour la France.
Pourquoi ?
Donc ils s'y mettent dedans ?
Eh ben on ne sait pas. Il n'est pas encore sorti. On n'a pas de date de sortie, mais il arrive. Ça a été confirmé par le directeur de chez Delcourt, qui aura bien un 33e, qui s'appellera Épilogue, qui aura à peu près dans les 100 pages.
Ah ouais, bah faut voir.
Et il faudra 500 euros, parce que du coup il y aura 50 pages de dédicaces des...
Ah non, mais imagine le jour où ils font un coffret collector sur les 33 albums.
Je pense que ça va arriver, hein, de toute façon.
Bah déjà, je rappelle que sur les Walking Dead, on a la version avec la couverture souple qui est éditée, mais on a déjà des versions collector grand format avec des couvertures rigides qui sont très intéressantes.
Bah justement,
parce qu'il y a des compléments
ça fait partie de ceux-là, les 33, parce que sinon c'est 193 en souple. Donc c'est comme à l'américaine, quoi. Finalement, t'as des petits formats ou en souple, et donc ça regroupe un tome. Et nous en France, on préfère les scinder, mettre 2-3 tomes par truc avec des couvertures rigides, ce qui donne un petit plus.
Mais
quand
t'as les deux versions en France. Je sais pas si t'as vu les bouquins.
Oui, tu peux avoir les deux versions, mais la plupart du temps, il y en a très peu qui sont publiés. Quand tu vois chez Urban, il y en a zéro en France qui.
Ah bah non, chez Urban, c'est des omnibus qui sont publiés quasiment systématiquement.
C'est ça. Et donc du coup, alors c'est pas sûr en soi parce qu'on n'a pas encore le programme du festival de la BD d'Angoulême de 2020, mais il se peut que Robert Kirkman y soit.
Ah bah ce serait pas mal ça.
Il en a parlé sur les réseaux sociaux et il a dit qu'il adorerait y aller pour 2020 vu que la série est finie maintenant, et adorerait rencontrer du coup à l'occasion du festival les fans de Walking Dead. Donc peut-être, je pense que oui, quand même un gros nom comme Robert Kirkman, t'évites de pas le faire venir, quoi, parce que ça pourrait faire ramener du monde quand même. Mais alors, on verra bien.
Expérience personnelle, je pense que Tony, tu avais dû voir ça aussi. J'avais vu la première venue de Charlie Adler à Angoulême, et c'était assez phénoménal le parallèle que tu pouvais faire entre les fans qui étaient en train d'attendre la dédicace et les zombies du bouquin. Il y avait une queue, c'était assez hallucinant. Une file d'attente. Oui, pardon.
C'est mieux.
Mais c'était assez rigolo à voir. Ouais,
exact.
Allez, c'est tout pour les news, on se fait une petite pause musicale.
C'est moi, je coupe mon téléphone cette fois-ci.
Tu me fais halluciner. Je vous mets un petit truc. Alors, c'est un petit peu mélancolique, mais moi j'aime beaucoup. Là, je vous ai mis Unreally de Nick Cave en duo avec PJ Harvey.
Très bien, bah dis donc.
J'adore. À tout à l'heure.
C'est autre chose que The Cure, hein.
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la. Down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 lee. A little bird let down on. Against defense, just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan.
La 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 la, la 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 la. Take him by his lily white hands, come take him by his feet, and throw him in this deep, deep well that's more than 100 feet.
And the wind did howl, and the wind did blow.
La 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 la, la 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 la. Flesh drops from your bones for the girl you have in a merry green land. Can wait forever for you to come home.
And the wind did howl, and the wind did moan.
La 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 la, la 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 la.
A little bird let down on him.
www.radio-g.fr.
De retour sur le 101.5 de Radio G où on se bidonne pour une raison que j'ignore. Ça va les gars?
Ça va. Ça on parlait des fouets de Doctor Strange.
Les fouets de... Oh, d'accord. Non, non, ça y est, mais c'est... Ça y est, j'ai compris. Mais, enfin, ah, voilà. Voilà. On arrête les substances avant de venir les gars quand même.
J'ai bu de l'eau.
Ah, oui, ben...
L'alcool c'est de l'eau.
Ah, qui veut s'y coller? Non, toi, t'as bon. Plus rien à dire.
Anthony, peut-être.
Anthony?
Non,
vous faites qu'est-ce exprès, que t'as fait hein. Ce week-end,
ouais,
Anthony?
Fait exprès.
Mais ça va, je vais pas raconter ma vie à chaque fois.
Allez,
Vous êtes mesquins, hein?
Bah, oui.
Tu veux y aller? Tu veux que j'y aille? Tu...
Bah, moi, je peux en faire un petit bout. J'ai plein de trucs, en fait.
J'en ai deux, moi.
T'en as deux, ouais. J'en fais un, t'en fais un, j'en fais
si
un,
tu veux,
t'en
si
fais
tu veux.
Un, il m'en restera deux.
D'accord.
Allez, on va commencer avec un petit peu de trucs. Alors, ça nous devance un petit peu, parce que c'est pas tout à fait encore l'automne. Hein. Je ne sais plus quand est-ce que c'est l'automne.
Mais bien sûr que si, c'est depuis si, c'est le 21 septembre.
Ouais, bien sûr, ouais.
Donc l'automne est arrivé, quelle chic idée, c'est le moment où vous pouvez retrouver une charmante BD. Alors c'est un peu du copinage hein, quand même,
oui, mais puisqu'il après,
s'agit
c'est pas
de
non
Sous les arbres.
Usurpé.
De Dave, sous-titré L'automne de Monsieur Grumpf aux éditions de La Gouttière. L'histoire d'un un ours mal léché, je ne vois pas comment le dire autrement.
Un blaireau.
Un blaireau. Oui, c'est un blaireau, mais mal léché.
Mal léché, oui.
Qui en fait est en train de ramasser ses feuilles devant sa maison en grommelant, parce que c'est à peu près tout ce qui s'est raconté.
Ouais, il grommelle beaucoup.
Il grommelle beaucoup. Et puis ses voisins vont passer, chacun avec les petits soucis, quid de l'écureuil qui marche dans ses feuilles qu'il vient de ramasser, son copain le hérisson qui a décidé de s'incruster parce qu'il fait un peu soif, il prendra bien un petit verre. Et on voit ce personnage un petit peu ronchonchon, le voisin que tout le monde connaît, hein, tout le monde a un voisin comme ça, qui au final a peut-être un peu plus bon cœur que ce qu'on pourrait croire, le tout sous l'agréable dessin de Dave. Alors je me suis beaucoup marré parce que quand c'est sorti, ça commence à avoir un mois ou deux déjà.
Ouais, facile, ouais.
Une des premières critiques qui lui avait été faite, Dave l'avait prise avec énormément d'humour en disant que ça lui rappelait un peu ses bulletins de notes à l'école.
Oui, tout à fait.
Plutôt bien en dessin, mais pauvre en histoire.
Ouais.
Et du coup, on peut pas dire pauvre en histoire parce que c'est une toute petite histoire, c'est très court. Et c'est un moment en fait.
Bah, puis les mecs qui rédigent les chroniques, alors déjà c'est facile. Et ensuite, de critiquer, je trouve, pour moi, ça n'a pas grand intérêt justement de sortir une chronique pour tailler un bouquin. Voilà, vaut mieux en parler quand on aime les livres,
c'est
quand même plus intéressant. Et après la personne qui oublie
c'est bien imagé. Les enfants préfèrent largement plus l'imagerie que et comprennent beaucoup plus de choses par l'imagerie que par le texte brut ou une histoire hyper hyper bien réfléchie avec des ressorts scénaristiques et tout.
Après c'est facile de dire que l'histoire est simple aussi. Enfin tu vois, à un moment donné toutes les histoires sont bonnes, après ça dépend de la façon qu'on a de les raconter. Je trouve
il raconte ça très bien.
Ben voilà, il a lié ça sous l'angle de la poésie, c'est parfait.
Comme tu dis Tony, quand tu parles de poésie, par rapport à ce que je vois de la couverture et ce que tu nous en as dit dans le contenu, moi je trouve pas que l'histoire est pauvre. En fait je trouve que ça va avec le côté poétique un peu de l'automne, cette petite douceur qui nous étreint un petit peu vers le début d'année scolaire. Enfin je sais pas, je trouve que ça c'est complètement raccord en fait.
Et puis ça va très bien, le personnage va très bien avec l'espèce de petit pincement qu'on peut avoir avec la morosité ambiante qui vient avec l'automne, alors qu'en fait c'est juste une belle saison.
Ah, j'adore, moi.
Les couleurs sont magnifiques. On est un peu déprimé parce qu'effectivement il y a moins de soleil, il y a plus de pluie. Mais du coup, il suffit juste de regarder autour de soi, et je pense que c'est ça aussi l'intérêt de ce bouquin.
La question que je me pose par contre, c'est une série ou c'est un one-shot? C'est prévu pour être une série apparemment, ouais.
Derrière, il y a marqué dans la même série, et pour l'instant, on n'a qu'un bouquin sur quatre.
Ouais, ouais.
Donc comme ils avaient fait pour Lily Crochet.
C'est malin ce qu'ils font, ils font des cases vides en disant, bon, il y en a quand même à prévoir.
Mais du coup, un beau bouquin qui fonctionne bien avec le trait, ma foi. Bah,
qui est d'autant plus plaisant. Alors, cool. Ouais, justement, le trait, parlons-en, parce que du coup, il expérimente une technique différente de ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant en bande dessinée, où avant, il ancrait, essentiellement au bic en plus. Là, pour le coup, il a aboli ça pour avoir justement cette espèce de douceur, de générosité dans le dessin. On est plus vraiment sur quelque chose qui s'adresse clairement à la jeunesse. Il met des textures beaucoup, il met énormément de lumière, et puis il pose une ambiance typiquement automnale, comme tu disais.
Et c'est top.
Moi je trouve ça superbe, et c'est pas parce que c'est un copain que je dis ça.
Les couleurs sont vraiment très jolies. Les teintes sont magnifiques.
Un tout petit vernis sélectif
sur les feuilles,
extrêmement discret sur deux feuilles.
C'est des petits bouquins très sympas, ceux de La Gouttière, ils sont très chouettes.
En plus, je sais que on craint rien à le dire puisque le prix du livre est fixe.
Ouais.
On est pour 10,70€. Hein.
Exactement.
C'est pas.
Ça va. Franchement, la qualité est là pour ce prix-là. Franchement.
Ah bah ouais.
Couverture en dur, format italien.
C'est de la belle ouvrage.
C'est de la belle ouvrage.
Par contre, je suis en train de me dire que j'en ai pas de voisin grognon, donc en fait, c'est peut-être moi.
C'est toi le voisin grognon, du coup.
Ah, d'accord.
Allez, Tony, je te laisse enchaîner.
Ouais, 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 pour la première chronique. On verra si on a le temps de faire la deuxième. Alors, moi, ce soir, je vais vous parler de The Kong Crew d'Eric Erenguel aux éditions Ankama. Alors, cette nouveauté, qu'on n'est pas une à proprement parler, hein, puisqu'il réunit les deux fascicules qui sont sortis initialement aux éditions Corette, il y a un peu plus d'un an et demi. C'était deux ouvrages au format comics qui nous brossaient en noir et blanc. Et dans la langue de Shakespeare, les fondations d'un nouvel univers séquentiel fort aguichant qui se résume en une seule question. Et si, en 1933, Kong avait gagné la bataille de l'Empire State Building. Alors on rappelle à toutes fins utiles et pour les Béotiens que le grand mythe moderne de King Kong se conclut initialement par la mort de ce dernier tombant de l'Empire State Building après avoir essuyé des rafales de plomb tirées par les biplans de l'US Air Force. Vous vous rappelez très bien de ce plan-là, ouais, il grimpe.
C'est un plan iconique. Hein,
exactement.
Et honteusement, de nombreuses fois plagié.
Bah, c'est voire ce qui fait la marque des grands, concrètement. Donc, ouais. Donc théoriquement, Kong décède. Et Erenguel se dit, tiens, je vais faire une uchronie à partir d'un mythe populaire moderne, Kong en l'occurrence, King Kong. Il se dit, voilà, si finalement, il n'était pas mort. Et comme dit, là, pas du tout. En fait, on part du principe que lors de cette baston homérique, grâce à ses grosses paluches, le balèze de gorille de 7 mètres de haut, a collé de bonnes grosses trempes aux pilotes pour les renvoyer à Patres et devenir ainsi le roi de Manhattan. Alors l'histoire démarre en 1947, soit 14 ans après, et la jungle a repris ses droits sur l'île de Manhattan, qui est devenue le domaine privilégié du très gros primate, qui semble couler des jours paisibles dans ce petit jardin privé. Alors, outre de très gros arbres et une végétation antédiluvienne, ce no man's land accueille des insectes surdimensionnés et des dinosaures, alors qu'ils ne le sont pas, mais vu qu'ils affichent déjà des tailles imposantes, ça reste de beaux bestiaux malgré tout. Erenguel recrée littéralement Skull Island, la patrie d'origine de Kong, en plein Manhattan. Il donne au célèbre arrondissement de New York des allures de temple antique étranglé par la jungle. C'est dépaysant à souhait, mais surtout très mystérieux. Oui, Kong est resté sur place, mais la question qui pose effectivement ce mystère, c'est que viennent foutre des dinosaures, des arbres millénaires, des insectes disparus depuis le Crétacé dans tout ça? C'est vrai, finalement.
Seulement
le gorille est là, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a cette jungle luxuriante et étonnante?
Ouais, surtout que ce Kong Island, c'est pas la porte à côté, quoi.
Non, bien sûr, ouais. Alors la question reste posée et la réponse arrivera, j'espère, hein, sans doute, dans un des prochains tomes.
J'ai une hypothèse.
Oh là, tu veux vraiment la dire?
Non.
D'accord, parfait. The Kong Crew, alors The Kong Crew ça veut dire l'équipage Kong hein, dans notre langue, est un hommage nostalgique aux années 40, au pulp et à la pop culture. Tous les ingrédients sont réunis pour en faire une lecture fort sympathique avec ses airs de déjà vu, mais c'est pas grave, on aime bien. Parce que cette BD, elle évoque King Kong, ouais, obligatoirement, hein, mais elle évoque également Rocketeer, Indiana Jones, Les Têtes Brûlées, Jurassic Park, New York 1997 et tant d'autres. Et bah pour toutes ces évocations, on l'aime. Enfin, en tout cas, moi, je l'aime. C'est comme une invitation à se rappeler tout ce qui nous a fait rêver gamin. Tous les poncifs sont là, hein, savamment mélangés, la pin-up sexy et intelligente, le petit chien aussi courageux que trop mignon, les pilotes émérites gouailleurs, mais au sens moral irréprochable, le scientifique perché, le mercenaire antipathique, les bestioles de tout poil et de toute taille, une tribu mystérieuse. Oui, c'est effectivement une orgie de clichés savamment distillés qui rend un hommage vibrant, aussi bien graphique que thématique. Un cri d'amour authentique au genre. The Kong Crew est à ce jour, et à mon sens, la meilleure Kongsploitation séquentielle existante. The Kong Crew, wow. Donc, d'Eric Erenguel aux éditions Ankama.
Trop classe.
Balèze. Mm. Tout ça, ça me fait penser, tu vois, les ambiances ultra pulp, tu parlais de Rocketeer,
qui est un exemple en la matière, ouais.
Voilà, et puis qui est complètement désapprécié, en fait, puisqu'au final, le film est super bon.
Ouais, ouais, la BD aussi.
N'a pas,
hein. La BD est très, très bonne.
Mais n'a pas l'aura, en fait, qu'il devrait, à mon sens, avoir.
Ben, moi, c'est un des films qui m'a fait rêver gamin. La bande dessinée m'a fait rêver après, parce que du coup, j'ai fait l'inverse de ce qu'il fallait faire, à savoir, j'ai vu le film avant de lire la bande dessinée. Et voilà, ça se passe à peu près à la même période. Bon, après, c'est plus les nazis, les méchants
dans le film,
ouais, même dans la bande dessinée. Mmh. Mais voilà, on est sur du gros pulp qui tape dans les années 40 dans une Amérique qui est complètement défigurée. Donc, c'est assez intéressant parce que finalement, on a un décor de fin du monde, mais c'est pas la fin du monde, c'est juste Manhattan en fait. C'est une île et Kong il a décidé de se poser là, il y reste quoi. Et après, il déroule des aventures, mais il y met tout ce qu'il peut. C'est un gros saladier de tout et n'importe quoi, de ce ce que moi j'aime voir. Ça m'a fait penser à Sucker Punch en l'occurrence,
c'était
un espèce de film un peu fourre-tout comme ça, où il y avait énormément de références dans tous les sens, où il se faisait plaisir, il se disait bon voilà, j'ai maintenant créé l'opportunité d'avoir tous les univers que j'affectionne, donc j'y vais, je le mets. Voilà, ça m'a fait aussi penser à ça. Après, je sais pas si les gens aiment Sucker Punch ou pas, mais en tout cas, la comparaison est pertinente. Et au-delà de ça, j'ai peut-être pas suffisamment insisté là-dessus, c'est bougrement bien gratté. Moi, je me rappelle d'Aaron Gwell à l'époque de Crâne. J'étais pas fan du dessin. Je trouvais ça un peu mou, je trouvais ça un peu trop comique. Là, pour le coup, il a rattrapé. Il sent qu'il rend hommage à tous ces auteurs des années 50-60 aux États-Unis. Il a vraiment lu énormément de comics, à mon sens, hein, je pense. Digéré beaucoup d'influences et de références. Et il ressource tout ça à merveille. Donc, vivement le deuxième.
Il est très très fort parce que, ouais, autant Crâne, on était sur un dessin qui était, voilà, sympa, mais un peu dans la veine comique.
Oui.
Et il y avait eu un fossé quand était sorti Lune d'argent sur Providence.
Bien sûr, exactement, tout à fait déjà.
Et puis, c'est pas Long John Silver ? Non, il y a
un
truc avec des Indiens, là.
Je ne sais plus.
Mais qui est super
aussi. Lone Ranger, non ?
Non. Non, un autre truc. Non, pas Lone Ranger, non, t'es pas bien, toi. Non, il y en a un autre qui est vraiment très très bien, on le retrouvera tout à l'heure. Sans souci. Mais effectivement, c'est super. Hein. Là, je découvre l'album en même temps que tu nous en parles et c'est vraiment très très beau.
C'est sorti chez un petit éditeur au départ, ouais. Les éditions Corrette. C'est sorti en fascicule, donc on est vraiment dans du comics à la française. Et du coup, en quand même, il y a la main dessus. Ils ont eu l'intelligence, enfin, je sais pas si c'est l'intelligence, mais en tout cas d'agrandir les planches parce qu'on en prend plein les mirettes. Et ils ont fait un bel objet. Et il a refait une couverture spécialement.
Bon, c'est un toilé en plus, tu vois.
Ouais, ouais. C'est vraiment un bouquin de fanboy, mais des fois, moi, ça me fait le plus grand bien.
Ça fait du bien.
Voilà.
Ah, tu me permets de faire une transition, parce que quand on parle de fanboy, la série Stranger Things qui a réussi à cumuler en très très peu de temps une fanbase assez phénoménale,
monstrueuse,
a connu pas mal de produits dérivés, que ce soit un jeu vidéo sous Android que je vous invite à faire, qui est absolument très très,
très,
très bon.
Deux sur Switch aussi.
Il y en a deux sur Switch.
Ouais.
Bah, du coup, moi, c'est surtout la version Android qui m'a beaucoup plu en 8 bits. Et j'étais très très déçu qu'à la dernière saison, il n'y ait pas un tire-boot qui soit fait.
Peut-être, ça va peut-être venir.
Peut-être.
La saison 4 a été annoncée, donc je spoil peut-être, mais voilà.
Mais non, tu spoil pas. Puisqu'en fait, je vais vous parler d'un album qui est sorti chez Manabooks. Manabooks, un éditeur connecté. Il s'agit de Stranger Things, l'autre côté. On l'avait abordé très vite dans les news, puisque c'est un album qui va relater l'histoire de Will Byers pendant que ses petits copains le cherchent. Alors, je vous spoil pas, hein, puisque dans la saison 1, Will est un petit garçon qui va passer dans le monde à l'envers.
Upside down.
L'Upside Down World. Et du coup, ben, c'est pas vraiment ce qui lui arrive. Tous ses potes le cherchent, on le voit ponctuellement dans des flashbacks, mais on ne sait absolument pas ce qui lui arrive. Et bien, Stranger Things, de l'autre côté, que vient de publier Manabooks, nous raconte ce qui lui arrive pendant cette période-là. Avec suffisamment d'intelligence pour intercaler des moments de la série, sans que ça devienne fanservice, sans que ce soit trop grossier. Et du coup, c'est super intéressant. Alors, je vous cache pas qu'il n'y a pas beaucoup d'autres protagonistes que Will en lui-même, mais on a des petits moments en fait où on a des flashbacks sur la fameuse partie de JDR qu'il joue avec ses copains, et on fait le parallèle entre son personnage Will le Sage et ce qui lui arrive dans cette Upside Down World. Et du coup, c'est super bienvenu, c'est super bien sympa de raccrocher avec les autres personnages. Alors du coup, là, effectivement, le fanservice reprend un petit peu.
Ouais.
Ne pas mettre les autres personnages aurait été un petit peu dommage. Moi, ce qui m'a... Donc la couve m'a bien séduite, elle est bien dans la veine, en fait, de la série.
Bah, elle joue surtout la carte des affiches des années 80, comme on pouvait en voir énormément, quoi, qui était peinte à la main avec tous ces grands peintres qui ont fait la renommée de Retour vers le futur, d'Indiana Jones, et tous ces films increvables.
C'est... Ouais, si je vois pas quoi dire de plus. Par contre, c'est vrai que quand j'ai ouvert le bouquin, j'ai fait... Ouf. J'aurais presque dit au départ que le dessin piquait les yeux. Alors, ouais, je veux pas dire du mal de Stefano Martino qui s'est occupé du dessin, puisqu'en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'il a su s'accommoder en fait de contraintes déjà visuelles, puisqu'il faut reprendre la qualité visuelle de la série et aussi les visages et les morphologies des acteurs, ce qui n'est pas forcément, j'imagine, évident. Moi, avec mon niveau de dessin, de toute façon, je sais que c'est déjà extrêmement compliqué. Mais il a su aussi reprendre un petit peu la patte vintage de certains comics qu'on pouvait trouver dans les années 80 et donner un effet extrêmement intéressant. Puisque toute l'ambiance un peu terne rappelle que l'Upside Down World, oui, c'est ça.
Ouais, ouais.
C'est, ça bouffe les couleurs. C'est quelque chose de très, très sombre et terne. Et on a ce côté un peu angoissant, un petit peu démoralisant tout au long de l'album, qui est certainement dû, en fait, au dessin et à la colorisation. Et du coup, moi, j'ai pris pas mal de plaisir, en fait, à découvrir ce qui a pu arriver à Will dans cette... dans cet univers alternatif pendant que ses petits copains. Alors je ne sais pas si c'était quelque chose qui était pensé dès le début, de faire découvrir aux gens plus tard ce qui pouvait arriver à Will, ou de garder ça complètement secret si la série ne marchait pas, mais du coup je trouve ça extrêmement bienvenu et c'est un complément, ma foi, fort agréable.
Bon, je pense que de toute façon tout le monde allait le demander au bout d'un moment.
Ah, tu penses que c'est fait exprès, toi?
Non, je ne pense pas que ça soit fait exprès non plus, je pense qu'ils y ont pensé. Si, ils ont dû se dire, si les gens se demandent ce qui s'est passé, on leur fournira un truc, mais est-ce qu'ils avaient pensé au format BD, est-ce qu'ils avaient pensé tout simplement à un format comme ça, ou peut-être faire un spin-off, ou juste un mini-film, tu vois, un court-métrage qui nous montre ça, ou des choses comme ça. En tout cas, je suis sûr qu'ils y avaient pensé. En mode, on nous le demandera de toute façon, parce que les créateurs de la série sont des grands fans aussi de séries et de comics, donc... eux-mêmes, je pense, se sont dit la même chose, mais je suis sûr que les gens vont se demander qu'est-ce qui lui est arrivé pendant tout ce temps.
Alors, je complète en plus de ce que tu dis. Parce que c'est vrai que c'est dommage, en fait, je veux pas critiquer le fait qu'on ait une version reliée comme ça, mais je pense que ça prenait encore plus de sens en version comics,
oui, c'est ça, c'est ce que j'allais
en feuillet,
dire.
Puisque ça correspond exactement à ce que vivent les personnages.
Ouais, complètement. Compléter ce que disait Teddy, c'est pas déconnant dans le sens où il y a une mise en abîme quelque part. Mmh. On parle de gamins qui sont fans de jeux de rôle, qui sont fans de séries télé, qui sont fans de films d'horreur. On les voit, enfin, on voit l'affiche de The Thing dans le mur de la chambre d'un des héros. Et là, il lisait des comics aussi, tu vois. Donc, forcément, quelque part, il y a à un moment donné une ligne directrice qui est tout à fait logique à ce qu'ils sortent la BD. Mais c'est vrai que c'était quasiment assuré que ça allait sortir un jour. Même s'ils n'y ont pas pensé au départ. Mais comme il dit, maintenant, je pense que des grosses machines comme ça, les gars.
Ils anticipent certaines choses, j'imagine, oui.
Ils doivent se douter un peu quand même qu'ils sont à l'aune d'un succès, quoi.
Ouais, puis c'est ça. Même si tu les sors pas, tu les prévois, tu vois, dans le cahier des charges.
Oui,
quoi.
Oui.
Oui. C'est parti. Je vais juste refaire les références. Stranger Things de l'autre côté. C'est aux éditions Manabooks. C'est Jody Hauser, Stefano Martino, pardon. Case Champagne, Lorraine Affe et Nat Piekos. Et ça donne un bien beau bouquin qui va plaire énormément aux gens qui ont vu Stranger Things. Peut-être que ça plaira quand même vachement moins aux gens qui n'ont pas vu la série, par contre. C'est peut-être le seul bémol qu'on peut lui donner.
Un truc d'initié, quoi.
C'est un complément, ouais.
Ouais.
Complément de la série.
Bah, c'est là où on revient un petit peu sur une des chroniques que j'ai fait sur le royaume de Blanchefleur, où effectivement, là, c'est super accessible aux gens qui n'ont pas lu et qui donnent envie. Là, je pense que si t'as pas vu la série, clairement, le truc t'es moins adressé. Après, c'est un petit peu la ligne directrice aussi de Manabooks, c'est de faire des BD et des goodies, ouais, qui sont liés à des univers existants.
Ouais.
C'est ça. Je t'en prie, Tony.
Bonsoir. Moi, ce soir, je vais également vous parler du premier tome de Chaplin en Amérique. Un autre monstre, hein, sacré, mais du coup pas King Kong.
Et puis qui a pas tapé sur des avions en haut.
Exactement, de Laurent Skeksic et David François aux éditions Rue de Sèvres. Ce qui est marrant, c'est de vous pouvoir faire un parallèle avec The Kong, parce qu'en l'occurrence, sur la couverture, on voit un Chaplin surdimensionné, qui s'accroche en fait à la flamme de la Statue de la Liberté.
Terrible.
C'est assez rigolo, je trouve. Bon, après, voilà, il y a une jaquette que moi je ne trouve pas formidable. Et puis de toute façon, en règle générale, les jaquettes, je les vire assez vite. Je ne suis pas d'accord avec l'invention de Monsieur Jaquette, je ne comprends pas. Mais
il y a
bon, bref.
Des piles,
voilà,
jaquettes.
Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est juste que.
Non, mais t'as raison, la couverture est quand même beaucoup plus jolie.
Bah, je trouve plus intéressante, plus enlevée et plus attrayante à mon sens.
Yes.
Donc c'est de Laurence Skeksic et David François aux éditions Rue de Sèvres pour l'occasion. Dans cette série qui est prévue en 3 tomes, les deux auteurs explorent la vie tumultueuse de l'un des plus grands artistes de tous les temps, Charles Spencer Chaplin, dit Charlie Chaplin pour le grand public. Alors la quatrième de couve se part d'un dialogue en guise de résumé. J'ai bien aimé, donc du coup, voilà, j'en reparle. Une phrase qu'énonce Chaplin avant de fouler le sol du pays de tous les possibles. « Salut l'Amérique, je suis venu te conquérir. Il n'est pas une femme, un homme, un enfant qui n'aura pas mon nom aux lèvres. » Donc bim, déjà tu vois. Autant dire que de l'ambition, il en avait à revendre le Charles.
Tout petit peu.
Alors qu'il est encore à admirer la statue de la liberté du pont du bateau qui va le débarquer à New York, il sait déjà qu'il va mettre le monde à ses pieds et que rien ni personne ne pourra lui barrer la route jusqu'à ce qu'il atteigne ce rêve un peu fou. Alors un peu fou, il l'est hein, forcément, pour ne jamais douter de sa réussite, pour ignorer les difficultés, pour avoir une telle foi en lui-même que l'échec est inenvisageable. Et cette folie douce, elle transpire tout au long de l'album par le biais d'images oniriques, fantasmagoriques, qui le jalonne cet album, comme ce Broadway où tous les théâtres affichent le nom de Chaplin, ou encore ce panneau de Griffin Park où les lettres habituelles sont remplacées par un arrogant Chaplin. Je me suis perdu, excusez-moi. Alors attendez.
Les aléas du copier-coller.
Ouais, non, mais c'est... non, c'est pas un copier-coller du tout, c'est que du coup j'ai levé les yeux et je me suis paumé.
Alors ça fait des années que je milite pour avoir des chroniques qui sont écrites et aérées pour pouvoir justement...
Elle est écrite et aérée, mais après, il n'empêche que je...
Non, tu sautes pas de ligne.
Bien sûr que si, comme ce Broadway où tous les théâtres affichent le nom de Chaplin, ou encore ce panneau que Griffin Park où les lettres habituelles sont remplacées par un arrogant Chaplin surplombant fièrement le quartier d'Hollywood. Voilà. Bravo. Donc les gens se sont paumés et moi aussi. Et du coup, c'était à un moment donné, il y a le fameux Hollywood qu'on connaît, hein, de Griffin Park, qui surplombe le quartier d'Hollywood. Et lui, dans sa tête, il voit qu'à la place d'Hollywood, il y a Chaplin, tout simplement, en toute simplicité. Cette folie douce, elle transpire également à travers les sublimes cases, et vraiment je pèse mes mots, de David François, dont le graphisme élégant au possible rappelle immanquablement ceux de Toulouse-Lautrec. Un grand, grand monsieur qui, au même titre que Chaplin, mais dans une toute autre discipline, a donné ses lettres de noblesse au monde du spectacle. C'est un véritable régal, régal pour les yeux, tout au long des 74 pages qui composent ce premier tome. On parle souvent de pertinence entre l'histoire et le graphisme, le style de l'auteur. Il faut qu'un écho, en fait, doit se faire, que le style de l'auteur colle à l'histoire. Et là, je trouve que, clairement, c'est vraiment un truc ultra réussi. Donc, je pense vraiment que David François était l'homme de la situation pour cet album. Il était l'homme qu'il fallait à cette histoire. L'histoire d'un destin, celui d'un homme extraordinaire dont on n'oublie pas d'évoquer les parts d'ombre, hein, qui accompagnent toute lumière, immanquablement. Donc on n'en fait pas non plus un portrait. C'était un homme effectivement génial, mais à côté de ça, il avait quelques petites...
casseroles.
Dont je ne parle pas, de quelques petites casseroles. Donc c'est une formidable réussite, à mon sens, encore une fois, une réussite thématique et une réussite graphique. Le premier volet enchanteur d'un triptyque qu'on espère riche en émotions et en images. Une lecture qu'il me tarde de finir. Alors, quand je dis qu'il me tarde de finir, c'est que j'attends les autres tomes pour connaître la vie rocambolesque de Charlie Chaplin. Et voilà. Charlie Chaplin en Amérique de Laurence Keksik et David François aux éditions Rue de Sèvres. Et c'était un de mes coups de cœur de la rentrée, ouais.
Eh ben, c'est avec un grand plaisir que...
Très chouette.
Nous t'avons écouté, mon cher Tony.
Bah, écoutez, formidable.
Et c'est vrai que la couverture donne extrêmement envie.
Ouais, non. Puis, c'est vraiment un super beau bouquin et fait avec une intelligence folle, quoi. Enfin, graphiquement parlant, déjà,
c'est vrai que graphiquement parlant, j'adore.
C'est un bonbon. C'est un bonbon, clairement. C'est non, mais vraiment, enfin, tu vois, faut déjà tu craques sur l'intérieur. En plus, Chaplin, tu sais d'emblée que le sujet va intéresser quand même pas mal de monde. Et quand c'est bien foutu, faut surtout pas bouder son plaisir.
Mais surtout si c'est pas fait de manière idolâtrer un personnage.
Pas du tout. Et c'est ça ce que j'apprécie en fait, c'est que voilà, on parle de Chaplin. Alors après, on parle Chaplin de la lumière, parce que concrètement, on ne le connaît qu'à travers son personnage, Charlot finalement. Après, il y a des gens qui ont un peu creusé la question. Il y a eu des reportages sur la personne. On sait qu'il avait quand même une certaine appétence pour les femmes. Il en a collectionné quelques-unes avec un sens de la fidélité qui n'appartenait qu'à lui. Mais mais voilà, ils ont l'intelligence de mettre ça en lumière et aussi de brosser le portrait d'un gars qui savait dès le départ qu'il allait rentrer dans l'histoire, qu'il allait être quelqu'un d'exceptionnel
et qui a tout fait pour.
Et qui a tout fait pour, qui a tout mis en œuvre, mais qui a plié les chines quand il fallait plier les chines, qui a accepté de faire des boulots foireux quand il fallait faire des boulots foireux, mais qui savait qu'à un moment donné, ce serait son moment et que ça viendrait et que il était là pour l'attraper.
Et pour le coup, c'est devenu une légende.
Et pour le coup, c'est devenu une putain de légende.
C'est clair. Il est 19h48, on va se faire une dernière petite pause musicale.
De 12 minutes.
Non, une courte mais qui envoie un peu de la patate. Et puis je finirai avec une, voire peut-être deux chroniques. Il y en a une, j'aimerais pas la bâcler parce que j'ai vraiment...
Ah ouais, ce serait dommage, c'est celle que je vois,
Donc là, on va se faire un petit truc qui va vous faire bouger dans les chemières. Un petit Chuck Berry.
Ouais, très bien. Super, ce soir, c'est de la qualité, dis donc. It was a teenage wedding and the old folks wished him well.
You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. When the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.
Toujours sur le 101.5 de Radio G, il est 19h51 minutes et 45 secondes. Et c'est le moment où vous écoutez toujours la classe de Seb. Je sais plus ce que je dis, moi. Je suis fatigué.
Allô, vous êtes là?
On espère que vous passez un bon moment avec nous. On arrive sur les dernières 10 petites minutes de l'émission avant de céder la place au gros bazar qui invite un monsieur à faire de la musique. Je les ai entendus.
D'accord.
Donc ça va être assez sympathique.
Bruyant.
Oh, je suis. Ouais, sympa, je pense.
Non, mais eux sont bruyants.
Eux sont bruyants, oui, ouais. Mais ça. Ils ont une autorisation de sortie une fois par semaine.
Ah bah, on sent que ça leur fait plaisir à chaque fois.
Là, je vais vous parler d'un bouquin. Je ne l'attendais pas en fait. Un bouquin, ou plutôt trois bouquins, puisqu'il s'agit d'un manga, une série en trois tomes. Alors, j'en ai que deux dans les mains. Je t'ai vu froncer les sourcils, oui, quand j'ai dit trois. Mmh. Après, c'est pas comme.
Je me suis dit, c'est plus compté, ça y est.
Non, c'est une série qui va se dérouler en trois tomes. C'est une série de Kamome Shirahama. Si le nom vous parle un petit peu, c'est que vous avez bien suivi l'émission La Case de Seb. Parce que j'en ai parlé l'année dernière. il s'agit de l'auteur qui publie aux éditions Pika L'Atelier des Sorciers.
Oui, ça y est, ça me revient.
Un truc bien dessiné.
Qui
bien
était dans
classe,
la sélection de.
De Mangalu.
Ouais, Mangalu, ouais.
Tiens, Anthony, je veux bien que tu m'en redonnes un, s'il te plaît, merci. Alors. On est très très loin en termes de scénario de l'Atelier des Sorciers, puisqu'on est sur un truc complètement barré. Les fans de jeux de rôle connaissent INSMV, où on peut incarner des anges et des démons dans un univers normal. Eh bien là, c'est l'histoire de Enyal et Devwila, respectivement une jeune angèle et une jeune démonette, qui ont des préoccupations très féminines, à savoir se mettre sur la tronche dès que l'une a piqué les fringues de l'autre ou que dès que l'autre a perdu une boucle d'oreille de l'une. Avec des considérations pour l'espèce humaine de manière, elles sont très 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 distantes des conséquences que peuvent avoir leurs bastons sur ce qui se passe sur Terre. Et elles ont, je sais pas, elles sont complètement perchées et personne ne les contrôle et les laisse faire globalement ce qu'elles ont envie. À moins qu'un un exorciste n'arrive à leur mettre des bâtons dans les roues. Ça, je vous laisserai le découvrir, ce serait dommage de spoiler. Mais globalement, ce sont des petites scénettes avec une trame un petit peu en filigrane de cet exorciste qui va essayer de tout faire pour mettre la main sur la démonette, puisque l'Angelo ne la gêne absolument pas. Et puis, pendant ce temps-là, on a nos deux jeunes femmes qui vont trouver un bébé, par exemple, et ne pas savoir quoi en faire. Alors du coup, pour porter la bonne parole, elles vont faire apparaître un caniche géant de la taille de King Kong en plein New York. le caniche qui a une fourrure tellement douce que si tu sautes un petit peu trop dessus, eh ben, tu te retrouves enfoncé dedans. Une fourrure qui empêche les balles de lui faire le moindre mal. Un truc complètement barré. Les pouvoirs magiques en fait, des deux protagonistes permettent à peu près toutes les folies, ce qui est complètement hallucinant et au moins aussi perturbant qu'agréable à lire tellement c'est barré. Alors ça fait partie des bouquins que moi j'affectionne particulièrement puisque ce sont des histoires complètement loufoques et cinglées qui n'hésitent pas à écorcher Dieu lui-même avec une grande dose de plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas Kamome Shirahama, c'est quelqu'un qui a une précision du dessin assez, assez exquise, assez envolée, puisqu'on peut trouver des pages un petit peu barrées, un petit peu, lâchées, et puis on peut trouver des illustrations pleines pages dans le manga qui sont presque de la gravure, tellement on a du détail, tellement les poses sont bien travaillées. Alors, faut aimer le manga, hein. J'ai présenté ça à un pote qui m'a dit non, moi je trouve ça moche. Tu fais mais pourquoi ? Il fait j'aime pas le manga, donc forcément ça aide pas. Mais on a de beaux passages avec la part belle sur le graphisme et les vêtements qui sont extrêmement travaillés. Il y a des choses, ça c'est une de mes pages préférées, Teddy. Et du coup, il y a des trucs vraiment très très bien. Si vous êtes fan de jeux de rôle, vous allez reconnaître l'univers. Qui a servi de base, qui peut servir de base à INSMV dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous êtes féru de mythologie basée sur le christianisme, vous allez retrouver des démons et des noms qu'on peut retrouver dans le christianisme. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Les personnages sont à la fois des petites pestes qu'on n'a qu'une envie, c'est de baffer, mais également de les trouver extrêmement attachantes. Elles sont capables de faire des petites envolées, des petites choses lyriques pleines d'affection et puis de faire la pire connerie dans les secondes qui viennent sans jamais réussir à se faire taper sur les doigts parce que visiblement tout le monde leur laisse la main libre. Et du coup c'est cool. Divine, puisque je parle de Divine, on a les gens des gros bazars qui sont en train de faire des clins d'œil. Je ne parle pas de vous, les amis. Quoique. Divine de Enyal et Dewila, c'est aux éditions Pika, c'est de Kamome Shirahama. Si vous appréciez le bon dessin, allez-y. Si vous appréciez les histoires barrées, allez-y. Et puis, si vous n'avez pas envie d'avoir une série qui soit trop longue, allez-y, parce que ce ne sera qu'en 3 tomes. Là, il y a déjà 2 tomes de sortie, et le 3e tome ne saurait tarder.
Content de finir.
Non, mais c'est qu'on a toujours peur d'être trop long et de dire trop de bêtises. Donc du coup, je garde, tu vois, comme promis, la BD. Ouais, on va même pas la révéler. On va aller.
D'accord.
J'ai essayé de faire un petit truc rigolo pour la prochaine.
Très bien.
On va accueillir nos amis du Gros Bazar qui peuvent dès à présent envahir le studio en toute sobriété et propreté. Et puis on va bientôt se quitter. Mais avant, pour qui ? That's all, folks. Et le Gros Bazar qui rentre dans les studios, qui prend possession. Je vous avais dit qu'ils allaient avoir de la musique ce soir. Ils sont, ils sont intenables. Mais bon, c'est pour ça qu'on les aime. Hein. Bon. Non, il est 19h58, ça va être le moment pour nous de rendre l'antenne. On vous souhaite une bonne soirée, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de belles chroniques. Alors dont une, je vais essayer de vous faire un truc rigolo. N'ayez pas peur, ça fera pas de mal.
Et la chronique d'Anthony la semaine prochaine, j'espère.
Et Anthony oui, nous fera une chronique.
Pas rigolo du tout.
On parlera peut-être de Julio Biscotto si on arrive
ce serait pas mal.
Ce serait pas mal.
Mm-hmm. Bah, moi j'aimerais. Bah, après, peut-être.
Alors je
vais
voir parce que, tu vois, la dernière fois ma fille est venue. Et elle a envie de faire des chroniques. Donc pourquoi pas la laisser faire.
Ah, bah, écoute, ce serait avec plaisir. Ouais, ce serait marrant quand tout.
Allez, on vous souhaite une bonne soirée et on vous laisse en compagnie du Gros Bazar.
Au revoir.
Salut. Au revoir.
Sauvez-vous tous.
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Trompez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Radio G 101.5 FM.